Chantal Pelletier est écrivain. Elle a publié récemment « Cinq femmes chinoises » aux éditions Joël Losfeld, un roman réaliste et énergique qui raconte les vies de Xiu, Daxia, Fang, Mei et Baoying. Après sa lecture, on en sait un peu plus sur la Chine d'aujourd'hui et la formidable énergie d'une société où les femmes croquent à belles dents la liberté, pressées de laisser derrière elles les horreurs du passé et de conquérir le pouvoir à 200 à l'heure pour oublier la misère. On écoute Chantal Pelletier. Chantal Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans quelles circonstances avez-vous abordé la Chine pour la première fois ?
La première fois, je suis allée en Chine en 92, l'été 92. J'ai fait un voyage d'un mois à peu près, assez touristique, assez générique. Enfin, il me semble que j'ai ramassé un certain nombre de cartes postales de la Chine. À la fois, bon, c'était très impressionnant. Je suis allée à Pékin, Shanghai, j'ai fait une croisière sur le Yangtze, donc c'était bien sûr avant le barrage des Trois Gorges, etc. Je suis allée à Xi'an, bien sûr à Guilin, à Hong Kong, enfin, etc. Donc j'ai fait vraiment tout un tour. Et d'ailleurs, nous avions terminé par Hong Kong et je garde aussi toujours cette sensation de sortir d'une Chine qui est encore sous couvercle, qui est encore endormie, et puis d'arriver dans cette oasis de Hong Kong, de modernité et de trépidation, là. Et, enfin bon, il y avait eu quelques sensations très très fortes en fait que j'ai toujours gardées. J'ai toujours eu envie d'y retourner très très rapidement. Je voulais même retourner notamment à Hong Kong avant la rétrocession. Et puis évidemment, bon, on peut pas toujours retourner comme ça dans les endroits qu'on aime parce qu'il y a aussi tellement de choses à découvrir. Et donc j'ai attendu 2006 pour y retourner.
Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser aux femmes chinoises ?
C'est un ensemble d'émotions, sans doute. D'abord, il a fallu que je m'intéresse à la Chine. Et quand je suis retournée en Chine en 2006, donc j'ai atterri à Pékin en plein hiver sous blizzard, avec les odeurs épouvantables de chauffage au charbon, enfin, etc., dans un monde où il n'y avait pratiquement que des chantiers, beaucoup de poussière, enfin bon, c'était une ville assez irrespirable, en plein chamboulement, qui était bien sûr en train de se construire, de s'élever, mais on voyait aussi beaucoup tout ce que ça signifiait en destruction, notamment destruction des vieux quartiers, etc. C'était très très bouleversant et l'ensemble de cette chose faisait que j'avais l'impression d'être un peu dans une marmite de sorcière et que je n'avais qu'une envie, c'était d'en partir en fait. Ça c'est la première sensation, très très violente. Et la deuxième sensation au bout de quelques jours, c'est que j'étais bien, j'étais très bien. J'aimais Pékin, j'avais pris quelques refuges dans cette ville, parce qu'il y a des refuges à Pékin, notamment les parcs. Il y avait encore quelques quartiers, vieux quartiers survivants, qui étaient absolument magiques, de calme, de sérénité, malgré au milieu de tout ce bouleversement. Et j'étais tellement impressionnée par ce que je voyais, par ce que je ressentais. Il faut dire aussi que j'ai été reçue par des journalistes, que je vivais au milieu des journalistes, donc qui ne parlaient que de la Chine, dont c'était vraiment la passion et le sujet d'intérêt. Il faut dire qu'en 2006, évidemment, le monde entier avait particulièrement les yeux tournés vers la Chine parce que c'était la préparation des JO et donc on savait qu'il était quand même en train de se passer quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc je suis allée à Shanghai pour quelques jours depuis Pékin. Là, j'ai été absolument mais éberluée parce que je n'aurais jamais imaginé voir une chose pareille de ma vie. Alors, à deux titres, c'est-à-dire que moi, j'avais vu un Shanghai avec une ville sur une rive du fleuve, mais pas de l'autre côté, pratiquement rien. C'est-à-dire qu'il y avait deux, trois grues, quelques entrepôts et rien. Et là, je me retrouvais devant quelque chose qui était plus impressionnant que Manhattan, avec des écrans qu'on pouvait regarder depuis l'autre rive. Donc, ce qui me paraissait... J'avais l'impression d'être dans une ville de science-fiction. J'aurais jamais imaginé voir quelque chose de ma vie. Je me disais peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être qu'on a gravé quelque chose sur ma rétine et que c'est vraiment une image de fiction. Donc, voilà, et j'ai été vraiment très très chamboulée par et puis je suis retournée à Pékin par trop d'émotions, bon, etc. Et d'autre part, j'étais très très sceptique malgré tout sur l'idée que en 2008, c'est-à-dire donc un an et demi plus tard, puisque je suis repartie de fin janvier, on est arrivé à peu près mi-décembre, que un an et demi plus tard, la ville allait être prête à accueillir les Jeux Olympiques. Et donc je me suis dit, je vais y retourner rapidement. Et j'y suis retournée au mois de fin octobre suivant, c'est-à-dire 8 ou 9 mois plus tard. Évidemment, j'ai vu le changement tellement spectaculaire de cette ville que je me suis dit qu'effectivement, il réussirait à faire une ville propre et moderne, du moins en apparence, avant les JO. Et là, c'est à partir de là, c'est-à-dire entre ces deux voyages et peut-être plus spécifiquement pendant mon deuxième séjour là-bas, que j'ai cru apercevoir pourquoi j'étais tellement bien à Pékin, malgré tout, hein, parce qu'il y avait vraiment, et que le tout était vraiment d'importance, c'est que je retrouvais quelque chose des années 50 de mon enfance. C'est-à-dire que un monde qui était dur, un monde où on avait tellement envie de fuir le passé et tellement envie de courir vers l'avenir, que c'est, pour moi c'était quelque chose de qui me faisait un bien fou, parce qu'en fait mon enfance a été bercée de ça. Moi je vivais dans une famille extrêmement modeste, mes parents étaient des paysans immigrés à la ville. Donc paysans immigrés à la ville, on sait ce que ça veut dire dans ce Pékin en construction, puisque chaque jour il y avait des milliers de Mingong là, qui arrivaient de la campagne. Et donc ils travaillaient comme des fous, mes parents, hein. Mon père travaillait bien ses 60 heures par semaine, je pense. Parce qu'évidemment on comptait pas ses heures, enfin bon, et parce que lui, bon, ce qu'il avait derrière lui était tellement terrible, entre la guerre, puis le maquis, puis la misère de la campagne, qu'il avait été obligé de fuir, etc. Donc lui, il fallait qu'il mise sur l'avenir, et donc il ne regardait pas à la dépense personnelle. Et en même temps, il ne se plaignait jamais et il me disait toujours « Demain, on va s'en sortir. Demain, ça va aller bien. Demain, enfin, etc. Et » Et d'être porté par cet élan, cette énergie, pour moi, ça a été très important, je pense, toute ma vie. Et je retrouvais un lieu où il se passait ça, dans des circonstances complètement différentes, bien sûr à un niveau beaucoup plus spectaculaire, mais quand même, parce que effectivement, moi j'ai connu ce moment où la France a été portée par un élan économique extrêmement puissant, ce qu'on a appelé après les 30 glorieuses, et où on savait que demain, c'était mieux qu'aujourd'hui, et alors c'était tellement mieux qu'hier, parce que bon, il y avait la guerre qui n'était pas si loin que ça, avec, et puis l'après-guerre avec tous les rationnements, etc. Donc moi je suis née après tout ça, c'est-à-dire, mais quand même, il y avait le souvenir encore très très précis. Et vraiment, j'ai commencé à être obsédée par ça, par le fait que quand je revenais en France, c'était terrible pour moi d'atterrir dans une sorte de gigantesque musée Grévin où tout était très beau, tout était harmonieux, voilà, etc. Mais où tout était immobile, tout était figé, rien n'était vrai, rien n'était vivant, rien n'était... On ne pensait qu'à qu'est-ce que c'était bien hier, qu'est-ce que c'est terrible aujourd'hui et qu'est-ce que ce sera pire demain, voilà. Et je me suis dit que c'était une telle douleur de vivre ça, pour nous, hein, à une époque où on disait tellement de mal de la Chine, parce que la Chine avait effectivement... il y avait beaucoup de choses à dire contre la Chine, de sa pollution, de son non-respect des droits de l'homme, bon, etc., bien sûr. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait une volonté de médisance qui était renforcée par le fait qu'il y avait une sorte de jalousie, qu'il y avait enfin quelque chose de... Bon, voilà. Donc j'ai commencé à être obsédée par tout ça et j'ai commencé à plonger dans un monde chinois au sens où j'ai lu des livres sur la Chine, ou qui se passait en Chine, j'ai vu des films chinois, j'ai regardé des sites internet qui parlaient de la Chine, enfin voilà, j'ai un peu plongé dans la Chine et Ce qui était arrivé assez rapidement aussi, peut-être même lors d'un de mes premiers voyages, enfin même de mon premier voyage, enfin de mon premier voyage dans les années 2000, je veux dire, c'est que j'ai été tout de suite très impressionnée par les femmes. Mais quand je dis impressionnée par les femmes, pas forcément des femmes que je rencontrais, avec qui je dialoguais, etc. Simplement les femmes que je voyais dans la rue, que je trouvais vraiment plantées sur leurs deux pieds, pas dans la séduction, mais dans la force, dans l'énergie, dans la détermination, enfin, etc. Et je me disais, mais vraiment, elles ont une histoire quand même extraordinaire, ces femmes, parce qu'elles en ont vraiment bavé, elles continuent à en baver pour la plupart d'ailleurs, mais à la fois... elles sont quand même portées, enfin il y a toute une marge de la société chinoise qui est quand même portée par un élan économique puissant, par un nationalisme puissant où je suppose qu'aujourd'hui, j'ai pas tort de dire que chaque Chinois est quand même porté par l'idée qu'il est en train de vivre dans ce qui va être bientôt la première puissance du monde si elle ne l'est pas déjà. Donc tout ça, c'était quand même un élément fort. Et que d'autre part, leur histoire aux Chinoises était suffisamment particulière pour qu'elle n'ait pas à s'arracher à un modèle familial qui les aurait obligés à s'occuper des frères et des sœurs nombreux, parce que la famille nombreuse n'existait pas. Or, on sait très bien que, en général, quand un pays sort de la pauvreté pour entrer dans une phase de développement, justement, il s'arrache au phénomène de famille nombreuse pour arriver à une natalité beaucoup plus contrôlée, mais qu'elle, elle n'avait pas ça à... Elle n'avait pas ça à prendre en compte, disons, que même il y avait eu très peu d'enfants dans leur entourage et que finalement c'était peut-être pas leur rêve absolu, c'était peut-être pas forcément d'avoir plein d'enfants, mais d'accéder à la consommation, d'accéder à une liberté, d'accéder à une indépendance, etc. Et puis, je me rendais compte aussi que, bien sûr, le communisme, qui avait quand même été suffisamment long pour vraiment marquer les caractères et les habitudes, c'est qu'il y avait quand même eu un nivellement des sexes par le communisme. C'est-à-dire qu'on avait quand même vu des femmes qui conduisaient des tracteurs, on avait quand même vu des femmes qui pouvaient avoir des responsabilités, etc. D'autre part, ces femmes, malgré la misère qu'il y a pu y avoir encore récemment, bon, elles étaient alphabétisées, elles avaient quand même reçu un semblant d'éducation. Et celles, d'autre part, qui avaient été enfants uniques, et qui donc, qui, bon, etc., ben, elles étaient quand même le seul espoir de leurs parents. Donc, en fait, il y avait eu quand même un soin particulier qui leur avait été apporté. Et donc, je me suis dit, tout ça, c'est des éléments qui font qu'elles ont un destin exceptionnel, complètement inédit depuis le début de l'histoire du monde, finalement, où on verrait peut-être émerger une sorte de féminisme, non pas militant pour revendiquer des choses, mais un féminisme qui serait un féminisme d'évidence, où certaines femmes vont réussir à franchir les obstacles et portées par cet élan économique et nationaliste, arriver à avoir des postes où, au lieu de rêver du prince charmant, elles vont peut-être plutôt rêver d'être elles-mêmes des princesses, peut-être pas charmantes, mais en tout cas des princesses.
Alors vous citez en exergue de votre livre cette phrase devenue célèbre: moi, je préfère pleurer sur le siège arrière d'une BMW que d'être heureuse sur un vélo. Moi, j'ai l'impression que ça résume tout à fait les femmes chinoises d'aujourd'hui.
Et oui, parce qu'en fait, bon, c'est ce que je dis, ne pas rêver du prince charmant, ne pas rêver forcément d'histoire sentimentale, mais être dans un pragmatisme, bon, qui, on sait que c'est pas étranger aux personnalités chinoises, mais je veux dire, d'être dans le pragmatisme de vouloir sa part de gâteau de la consommation mondiale, d'autant plus que aujourd'hui, cette consommation, à partir du moment où on accède à un certain niveau de richesse et de consommation, ben c'est la planète entière qu'on a à consommer. C'est-à-dire, c'est pas simplement son quartier, sa ville, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que peu à peu se sont dessinés des personnages de femmes qui, traversant des épisodes vraiment d'une grande cruauté de l'histoire chinoise récente, puisque mes héroïnes, elles sont nées, disons, entre les années 50 et les années 80, Et qui donc arrivait donc à cette charnière des années 2000 et 2010, elles accèdent à des femmes qui ont un petit peu la planète à leurs pieds, quoi. Voilà.
À propos de la planète à leurs pieds, je rappelle qu'aujourd'hui, sur les 20 femmes entrepreneurs les plus riches du monde, il y en a 11 qui sont chinoises. Ça va tout à fait dans le sens de vos personnages. Alors, ces cinq femmes, Xu, Daxia, Fang, Mei et Bao Ying, c'est un petit peu la quintessence de toutes les femmes chinoises que vous avez rencontrées.
Que j'ai rencontré et que j'ai imaginé, parce qu'en fait, oui, bien sûr que j'ai rencontré, mais que j'ai rencontré pas forcément dans la réalité, que j'ai rencontré aussi dans les livres, que j'ai rencontré aussi dans les films, que j'ai rencontré aussi dans des faits divers, enfin, etc. Et en fait, c'est toujours pareil, finalement, les romanciers ne savent jamais comment les personnages naissent. En fait, moi, j'ai l'impression que pendant plusieurs années, finalement, j'ai trituré une sorte de matière chinoise qui a été assez rapidement une matière spécifiquement féminine chinoise, etc. Et qu'à partir de cette sorte de boue, peu à peu, il y a des lignes de force qui se sont dégagées, et peu à peu, de ces lignes de force, on est des personnages. Et à un moment, quand un personnage naît, c'est vrai que ça, c'est le bonheur du romancier. Je pensais que le personnage, il trace sa route un peu tout seul, quoi. Il sait comment réagir aux événements, il sait ce qu'il va inventer pour se sortir des situations, enfin, etc. Quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout sûre que ça se passerait. Évidemment, parce que on part et on ne sait pas où on va. C'est bien ça. Finalement, on ne le sait pas plus que le lecteur. Et c'est ça qui en même temps est le moteur de l'avancée du roman. C'est-à-dire, voilà, est-ce que mes personnages vont me convaincre, moi, de ce qu'elles font et de ce que je réussis à leur faire faire, quoi. Ouais.
Vous avez réussi le tour de force, finalement, avec des personnages de roman, à nous faire croire que c'était presque un reportage.
Alors, on me l'a parfois reproché en me disant, mais c'est vraiment, il faut entrer dans le livre pour comprendre que ce n'est pas du tout un reportage, que c'est une fiction, parce que c'est vrai que je donne les années de naissance, par exemple. Et pour moi, c'était, et leur lieu de naissance. Et en même temps, pour moi, c'était important parce que, moi, je ne m'adressais pas du tout à des gens qui étaient allés en Chine déjà, qui connaissaient bien la Chine. Je ne m'adressais pas du tout à des spécialistes de la Chine. Ce livre est dédié à mon bonhomme qui n'a jamais mis les pieds en Chine et qui n'ira sans doute jamais. Et en fait, je me disais, je vais l'emmener là-bas. Lui, il connaît rien. Enfin, il sait des choses de la Chine comme nous en savons tous. Mais vraiment, c'est aussi toujours important pour moi le moment où je choisis le dédicataire d'un livre parce que ça me donne presque un ton. Et là, je remerciais la personne notamment qui m'avait beaucoup aidée quand je suis arrivée en 2006 à Pékin, mais surtout je le dédiais à mon compagnon pour l'emmener en voyage. Et mon but, c'était de me dire, si j'arrive à l'emmener lui, j'arrive à emmener d'autres lecteurs. Et mon but en écrivant ce roman, c'était vraiment d'emmener un Européen et un Français plus particulièrement en Chine, dans la Chine d'aujourd'hui, mais en essayant de mettre quelques racines à cette Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire de faire comprendre que s'il y a aussi des excès aujourd'hui, c'est que c'est né de tellement de cataclysmes et de tellement de choses difficiles, etc., que voilà, on ne peut pas comparer avec ce qui se passe chez nous, quoi.
Mais finalement, vous avez tout à fait réussi à nous faire prendre conscience, spécialiste ou pas, de ce qui est la quintessence du peuple chinois. Et notamment à travers, il y a des moments tout à fait terribles où la folie prend le pouvoir, où ces femmes, on est vraiment dans les bas-fonds d'un pays, alors qui est la Chine, mais bon, qui pourrait être ailleurs presque. Vous allez chercher vraiment l'humanité, on a l'impression que vous la grattez jusqu'à l'os quand même.
Je pense que j'essaye de faire ça un petit peu dans tous mes romans. Moi, j'ai écrit du noir, du polar. Donc, je veux dire, moi, j'aime bien. Oui, c'est vrai que j'aime bien chercher un peu le squelette sous les apparences, etc. Puis je trouve que c'est vraiment le travail du romancier, quoi. Et puis il faut dire aussi que moi, j'essayais de transmettre les émotions que j'avais eues, et que quand on se penche sur l'histoire de la Chine, c'est bouleversant. Je veux dire, bon, c'est vrai, par exemple, dans ma génération, on savait très bien ce que ça pouvait dire, par exemple, d'avoir une famille qui avait été par la guerre, etc., qui était encore proche, etc. Mais là, quand je mets à un de mes personnages un père qui l'a mise au monde, si j'ose dire, après 25 ans de guerre, on peut pas imaginer que ça existe, quelqu'un qui traverse 25 ans de guerre, qui pendant 25 ans est au combat. Je veux dire, voilà. Et or, ça existait en Chine, et tout à fait récemment, au XXe siècle.
Il n'y a qu'en Chine qu'il y a l'inimaginable. Alors, on va revenir à ces jeunes chinoises un petit peu dont vous parlez. Donc, leur leitmotiv, c'est profiter de la vie et de cette nouvelle liberté. Car, comme le dit Fang, nous commençons à savourer notre revanche et ce n'est qu'un début. Alors, vivre à fond, vivre tout de suite, vous qui connaissez bien la Chine, la question c'est, et après ? Ces jeunes, quand elles ont 18, 20 ans, elles arrivent au sommet parfois à 22, 23 ans. Et on peut se poser la question, et après ?
De toute façon, pour chacune, je pense qu'il est indiqué plus ou moins que les lendemains ne seront pas forcément enchantés, parce que elles ont leurs bagages sont quand même très lourds. C'est-à-dire que tout ce qu'elles ont traversé a laissé quand même des traces, des chagrins et des choses qui sont un petit peu difficiles. En même temps, je ne voulais pas du tout crier victoire pour ces femmes, et en même temps je ne voulais pas être dans la noirceur de demain, etc., même si elle a indiqué à plusieurs reprises. Et en fait, c'était très important pour moi que le dernier personnage, parce que quand même c'est un peu construit comme des nouvelles, puisque chaque portrait pourrait être lu indépendamment des autres, finalement, mais en même temps il faut quand même aller jusqu'au bout du livre pour tout savoir. Et le dernier personnage, Bao Ying, pour moi il est très important, parce que c'est peut-être celle finalement dont le destin a été le plus difficile pour mille raisons. Et maintenant, bah, évidemment je ne le savais pas quand j'écrivais le livre, maintenant je vois le film qui est construit comme une sorte de toit, en fait, c'est-à-dire c'est un tuilage, hein, puisque chaque tuile dépasse un peu de la suivante, etc. Et au fait de ce toit, il y aurait Bao Ying, donc qui est ce dernier personnage, et qui, malgré tous ses chagrins, toutes ces épreuves qu'elle a traversées, etc., toutes les pertes qu'elle a dû accepter, elle se retrouve dans un étage très très élevé d'un building à Hong Kong. Elle a un peu le monde à ses pieds. Et malgré tout, elle est, pour moi, c'est quelqu'un qui fait un peu un lien ténu, certes, avec l'idée qu'on peut avoir de l'ancienne sagesse chinoise, c'est-à-dire la sérénité, la contemplation et être un peu hors du monde, c'est-à-dire comme dans une retraite, finalement. Et donc voilà, pour moi, l'espoir, ce serait que malgré tout ça, il reste quelque chose de cette culture qui est millénaire et qui est quand même la plus vieille culture vivante du monde, quoi. Que cette culture ait encore des forces et puisse un peu équilibrer les noirceurs, quoi.
Est-ce que vous avez voulu nous transmettre la force de ces femmes qui ont vécu des choses terribles, mais on a l'impression que plus c'est terrible, plus elles sont fortes, plus elles s'en sortent. Est-ce que c'est pas un petit peu une leçon aussi pour l'Occident ?
Alors, je n'aurais pas cette prétention. Mais en tout cas, bien sûr que ma génération de femmes, par exemple, je trouve qu'on a fait la conquête de beaucoup de choses, qu'on a accompagné un progrès, mais on l'a aussi... on s'est un petit peu retroussé les manches pour l'obtenir. Et donc, oui, moi, je pense qu'il faut se battre. Donc, il faut se battre et que quand on se bat, on n'est pas forcément victorieux, mais en tout cas, on cueille quand même des fruits de sa bagarre. Et oui, peut-être que le fait que nous soyons dans un monde de un peu trop repu, peut-être, qui ne pense qu'à garder ses privilèges, et en fait, de toute façon, ce qui est sans doute illusoire, et sans vouloir... se retrousser les manches, peut-être. Enfin, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a un Occident. Si vous voulez, avant, c'était quand la Chine s'éveillera, mais aujourd'hui, c'est quand est-ce que l'Occident va se réveiller. Donc, effectivement, les femmes battantes, moi, j'en ai eu des exemples, même ma grand-mère, ma mère, enfin, c'est des femmes qui ont travaillé, c'est vraiment des femmes qui se sont battues. Donc, je pense que... pour un individu, c'est important de se battre, mais notamment pour une femme, parce que je veux dire, évidemment, pour une femme, rien n'est jamais complètement conquis. C'est pas possible, quoi.
Et aujourd'hui, ce sont les Chinoises qui se battent. Chantal Pelletier, merci. Nous écoutions un entretien avec l'écrivain Chantal Pelletier que j'ai réalisé en juin 2013 à propos de son dernier roman « Cinq femmes chinoises » paru aux éditions Joël Losfeld.
À franchir les obstacles et porter par cet élan économique et nationaliste, arriver à avoir des postes où, au lieu de rêver du prince charmant, elles vont peut-être plutôt rêver d'être elles-mêmes des princesses. Peut-être pas charmantes, mais en tout cas des princesses.
Alors vous citez en exergue de votre livre cette phrase devenue célèbre. « Moi, je préfère pleurer sur le siège arrière d'une BMW que d'être heureuse sur un vélo. » Moi, j'ai l'impression que ça résume tout à fait les femmes chinoises d'aujourd'hui.
Et oui, parce qu'en fait, bon, c'est ce que je dis, ne pas rêver du prince charmant, ne pas rêver de forcément d'histoire sentimentale, mais être dans un pragmatisme, bon, qui, on sait que c'est pas étranger aux personnalités chinoises, mais je veux dire d'être dans le pragmatisme, de vouloir sa part de gâteau de la consommation mondiale, d'autant plus que aujourd'hui, à partir du moment où on accède à un certain niveau de richesse et de consommation, ben c'est la planète entière qu'on a à consommer. C'est-à-dire, c'est pas simplement son quartier, sa ville, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que peu à peu se sont dessinés des personnages de femmes qui, traversant des épisodes vraiment d'une grande cruauté de l'histoire chinoise récente, puisque mes héroïnes, elles sont nées, disons, entre les années 50 et les années 80, et qui donc arrivaient donc à cette charnière des années 2000 et 2010, elles accèdent à des femmes qui ont un petit peu la planète à leurs pieds, quoi. Voilà.
À propos de la planète à leurs pieds, je rappelle qu'aujourd'hui, sur les 20 femmes entrepreneurs les plus riches du monde, il y en a 11 qui sont chinoises. Ça va tout à fait dans le sens de vos personnages. Alors, ces cinq femmes, Xiu, Daxia, Fang, Mei et Bao Ying, c'est un petit peu la quintessence de toutes les femmes chinoises que vous avez rencontrées.
Que j'ai rencontrées et que j'ai imaginées. Parce qu'en fait, oui, bien sûr que j'ai rencontrées, mais que j'ai rencontrées pas forcément dans la réalité, que j'ai rencontrées aussi dans les livres, que j'ai rencontrées aussi dans les films, que j'ai rencontrées aussi dans des faits divers, enfin, etc. Et en fait, c'est toujours pareil, finalement. Les romanciers ne savent jamais comment les personnages naissent. En fait, moi, j'ai l'impression que pendant plusieurs années, finalement, j'ai trituré une sorte de matière chinoise qui a été assez rapidement une matière spécifiquement féminine chinoise, etc. Et qu'à partir de cette sorte de boue, peu à peu, il y a des lignes de force qui se sont dégagées, et peu à peu, de ces lignes de force, on est des personnages. Et à un moment, quand un personnage naît, c'est vrai que bon, bah ça, c'est le bonheur du romancier, je pense, c'est que bah, le personnage, il trace sa route un peu tout seul, quoi. Il sait comment réagir aux événements, il sait ce qu'il va inventer pour se sortir des situations, enfin, etc. Et donc, quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout sûre que ça se passerait. Évidemment, parce qu'on part et on ne sait pas où on va. C'est bien ça. Finalement, on ne le sait pas plus que le lecteur. Et c'est ça qui, en même temps, est le moteur de l'avancée du roman. C'est-à-dire, voilà, est-ce que mes personnages vont me convaincre, moi, de ce qu'elles font et de ce que je réussis à leur faire faire, quoi. Ouais.
Vous avez réussi le tour de force, finalement, avec des personnages de roman, à nous faire croire que c'était presque un reportage.
Alors, donc, ça, on me l'a parfois reproché en me disant, mais c'est vraiment, il faut entrer dans le livre pour comprendre que ce n'est pas du tout un reportage, que c'est une fiction, parce que c'est vrai que je donne les années de naissance, par exemple. Et pour moi, c'était, et leur lieu de naissance. Et en même temps, pour moi, c'était important parce que, bon, je ne m'adressais pas du tout à des gens qui étaient allés en Chine déjà, qui connaissaient bien la Chine. Je ne m'adressais pas du tout à des spécialistes de la Chine. Ce livre est dédié à mon bonhomme qui n'a jamais mis les pieds en Chine et qui n'ira sans doute jamais. Et en fait, je me disais, ben voilà, je vais l'emmener là-bas. Lui, il connaît rien. Enfin, bien sûr, il sait des choses de la Chine comme nous en savons tous. Mais vraiment, c'est aussi toujours important pour moi le moment où je choisis le dédicataire d'un livre parce que ça me donne presque un ton. Et là, bon, je remerciais la personne notamment qui m'avait beaucoup aidée quand je suis arrivée en 2006 à Pékin, mais surtout je le dédiais à mon compagnon pour l'emmener en voyage. Et mon but, c'était de me dire, si j'arrive à l'emmener lui, j'arrive à emmener d'autres lecteurs. Et mon but en écrivant ce roman, c'était vraiment d'emmener un Européen et un Français plus particulièrement en Chine, dans la Chine d'aujourd'hui, mais en essayant de mettre quelques racines à cette Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire de faire comprendre que s'il y a aussi des excès aujourd'hui, c'est que c'est né d'un tel tellement de cataclysmes et de tellement de choses difficiles, etc., que voilà, on ne peut pas comparer avec ce qui se passe chez nous, quoi.
Mais finalement, vous avez tout à fait réussi à nous faire prendre conscience, spécialiste ou pas, de ce qui est la quintessence du peuple chinois. Et notamment à travers, il y a des moments tout à fait terribles où la folie prend le pouvoir, où ces femmes, on est vraiment dans les bas-fonds d'un pays, alors qui est la Chine, mais bon, qui pourrait être ailleurs presque. Vous allez chercher vraiment l'humanité, on a l'impression que vous la grattez jusqu'à l'os quand même.
Bah, je pense que j'essaye de faire ça un petit peu dans tous mes romans. Moi, j'ai écrit du noir, du polar, donc je veux dire, moi j'aime bien. Voilà, c'est vrai que j'aime bien chercher un peu le squelette sous les apparences, etc. Puis je trouve que c'est vraiment le travail du romancier, quoi. Et puis il faut dire aussi que moi j'essayais de transmettre les émotions que j'avais eues et que quand on se penche sur l'histoire de la Chine, c'est bouleversant. Je veux dire, bon, c'est vrai, par exemple, dans ma génération, on savait très bien ce que ça pouvait dire, par exemple, d'avoir une famille qui avait été par la guerre, etc., qui était encore proche, etc. Mais là, quand je mets à un de mes personnages un père qui l'a mis au monde, si j'ose dire, après 25 ans de guerre, on peut pas imaginer que ça existe, quelqu'un qui traverse 25 ans de guerre, qui pendant 25 ans est au combat. Je veux dire, voilà. Et or, ça existait en Chine et tout à fait récemment, au XXe siècle.
Il n'y a qu'en Chine qu'il y a l'inimaginable. Alors, on va revenir à ces jeunes chinoises un petit peu dont vous parlez. Donc, leur leitmotiv, c'est profiter de la vie et de cette nouvelle liberté. Car, comme le dit Fang, nous commençons à savourer notre revanche et ce n'est qu'un début. Alors, vivre à fond, vivre tout de suite, vous qui connaissez bien la Chine, la question c'est et après? Ces jeunes, quand elles ont 18, 20 ans, elles arrivent au sommet parfois à 22, 23 ans. Et on peut se poser la question, et après?
De toute façon, pour chacune, je pense qu'il est indiqué plus ou moins que les lendemains ne seront pas forcément enchantés, parce que elles ont leurs bagages sont quand même très lourds. C'est-à-dire que tout ce qu'elles ont traversé a laissé quand même des traces, des chagrins et des choses qui sont un petit peu difficiles. En même temps, je ne voulais pas du tout crier victoire pour ces femmes, et en même temps je ne voulais pas être dans la noirceur de demain, etc., même si elle a indiqué à plusieurs reprises. Et en fait, c'était très important pour moi que le dernier personnage, parce que quand même c'est un peu construit comme des nouvelles, puisque chaque portrait pourrait être lu indépendamment des autres finalement, mais en même temps il faut quand même aller jusqu'au bout du livre pour tout savoir. Et le dernier personnage, Bao Ying, pour moi il est très important, parce que c'est peut-être celle finalement dont le destin a été le plus difficile pour mille raisons. Et maintenant, évidemment je ne le savais pas quand j'écrivais le livre, maintenant je vois le film qui est construit comme une sorte de toit en fait, c'est-à-dire c'est un tuilage, hein, puisque chaque tuile dépasse un peu de la suivante, etc. Et au fait de ce toit, il y aurait Bao Ying, donc qui est ce dernier personnage, et qui, malgré tous ses chagrins, toutes ces épreuves qu'elle a traversées, etc., toutes les pertes qu'elle a dû accepter, elle se retrouve dans un étage très très élevé d'un building à Hong Kong. Elle a un peu le monde à ses pieds. Et malgré tout, elle est, pour moi, c'est quelqu'un qui fait un peu un lien ténu, certes, avec l'idée qu'on peut avoir de l'ancienne sagesse chinoise, c'est-à-dire la sérénité, la contemplation et être un peu hors du monde, c'est-à-dire comme dans une retraite finalement. Et donc voilà, pour moi, l'espoir, ce serait que malgré tout ça, il reste quelque chose de cette culture qui est millénaire et qui est quand même la plus vieille culture vivante du monde, quoi. Que cette culture ait encore des forces et puisse un peu équilibrer les noirceurs, quoi.
Est-ce que vous avez voulu nous transmettre la force de ces femmes qui ont vécu des choses terribles, mais on a l'impression que plus c'est terrible, plus elles sont fortes, plus elles s'en sortent? Est-ce que c'est pas un petit peu une leçon aussi pour l'Occident?
Alors, je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, bien sûr que ma génération de femmes, par exemple, je trouve qu'on a fait la conquête de beaucoup de choses, que on a accompagné un progrès, mais on l'a aussi, on s'est un petit peu retroussé les manches pour l'obtenir. Et donc, oui, moi, je pense que il faut se battre. Donc, il faut se battre et que quand on se bat, on n'est pas forcément victorieux, mais en tout cas, on cueille quand même des fruits de sa bagarre. Et oui, peut-être que le fait que nous soyons dans un monde de un peu trop repu, peut-être, qui ne pense qu'à qu'à garder ses privilèges, et en fait, de toute façon, ce qui est sans doute illusoire, sans vouloir se retrousser les manches, peut-être. Enfin, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a un Occident. Si vous voulez, avant, c'était quand la Chine s'éveillera, mais aujourd'hui, c'est quand est-ce que l'Occident va se réveiller. Donc, effectivement, les femmes battantes, moi, j'en ai eu des exemples, même ma grand-mère, ma mère, enfin, c'est des femmes qui ont travaillé, c'est vraiment des femmes qui se sont battues. Donc, je pense que pour un individu, c'est important de se battre, mais notamment pour une femme, parce que je veux dire, évidemment, pour une femme, rien n'est jamais complètement conquis. C'est pas possible, quoi.
Et aujourd'hui, ce sont les Chinoises qui se battent. Chantal Pelletier, merci. Nous écoutions un entretien avec l'écrivain Chantal Pelletier que j'ai réalisé en juin 2013 à propos de son dernier roman « Cinq femmes chinoises » paru aux éditions Joël Losfeld.